La belle d'automne en son cratère, c'est l'illusion de la part du passé, faisant table
rase. Qu'est-ce qu'il dit?
C'était savoir si tu voulais parler.
Mais parler pour dire quoi? Ce qu'on va dire. Mais moi, je sais pas quoi dire à la radio.
Oui, parce que, en fait, nous, c'est une émission sur le chant. On va faire une émission.
Ah, bah alors, on pourra chanter si on sait pas quoi parler. Parce que c'est une
émission. Ils sont pas déjà en train de parler, de chanter.
Il faudrait savoir ce que tu dis. Tu dis chanter ou tu dis parler?
Je dis rien, moi. En plus, c'est un peu loin, tu vois. C'est, on a... Mais du coup, là, vous êtes confinés, c'est ça?
Oui, on est complètement confinés.
Alors, du coup, c'est quoi le programme?
Le programme de l'émission? Ah, alors, le programme, c'est déjà de savoir s'il y a une personne qui enregistre.
Par exemple, Houmous, au hasard.
Au hasard, hein, c'est comme ça.
C'est moi qui décide quand il parle.
Coucou. Coucou.
On décide le hasard aussi. Comme on t'a dit, c'est Houmous au hasard.
Merci Houmous d'enregistrer. C'est aussi le moment où on peut envoyer des SMS aux potes qui se sont pas encore connectés et leur expliquer comment on se connecte. Comment on se connecte?
Sur le chat? Alors sur le chat, on se connecte en allant sur https://chat.koumbit.net. Et là, il y a une petite page qui s'affiche. Et à ce moment-là, sur la petite page, dans Channels, il faut rentrer hashtag, soit dièse, parce qu'on a une émission musicale, radio sans nous, radio sans nous, tout attaché. Et puis, il faut se choisir un pseudo, un blaze, un prénom, une manière dont on souhaite apparaître.
Voilà. Est-ce qu'on passe une petite chanson en attendant que les gens se connectent, ou est-ce qu'on commence?
Mais la petite chanson, c'est une rubrique de l'émission.
Je ne peux rien comprendre.
Du coup, on pourrait par exemple envoyer un jingle.
Une série de jingles.
Non, juste le jingle adapté à la situation. L'apéro chant, une émission chantée à la maison.
C'est bien l'heure de taper la chansonnette, là.
Il n'y a pas d'heure pour chanter.
Un, deux. Si vous arrêtiez de gueuler un peu.
Bon, c'est bien ce que je pensais. C'est un peu démodé. En attendant, je te nomme assistant chef de chœur.
Retrouve toutes les paroles des chansons sur covid19.cmea-pdll.org.
Oui, on va recommencer là.
covid19.cmea-6pdll.org.
Un canard.
Regardez. Eh ben bonjour.
Bonjour.
Et bonjour. Et il est l'heure de l'apéro chant nous, l'émission qui vous fait chanter à la maison.
Ou dans l'appartement, ou dans la voiture.
Ou dans la caravane.
Oui, mais ça rimait pas.
Ah. Eh ben, voilà, alors... que nous accueillons les Let It Be et Pouldo qui arrivent pour le blind test. Du coup, comme tous les soirs, on a plein de rubriques. Tout d'abord, on commence par un blind test. Un blind test qui était sur la thématique de la dernière fois, c'est-à-dire la chambre, le lit, coucher, tout ça. Après, on a une petite chanson. Après, on a une grosse chanson. Après, on a un canon. Après, on a Mary Poppins Supercalifragilistique. Et après, c'est fini. Et après, on a un Shabadabada. Et on a un petit message là qui dit que la révolution sera la floraison de l'humanité comme l'amour est la floraison du cœur. Merci, Pouldo Levray, pour ça. Voilà. Et attention, attention, appel à contribution, voilà, de Hummus. On va envoyer à Envoyez-nous. Ah oui, oui, envoyez-nous. Parce que là, en fait, il y a Hummus qui est en train d'essayer de faire une rubrique sur la question des quiz et des chambres. Et du coup, Hummus demande à envoyer un souvenir d'Harry Potter et vos trois livres préférés. Ça permet d'enrichir un petit peu les émissions du midi. Donc, des fois, on fait des quiz. Il y a eu cette semaine un quiz sur Harry Potter et un quiz sur Star Wars. Et tous les midis, il y a des émissions qui parlent de lecture. Voilà. Et du coup, ça permet aussi, si vous envoyez des choses, de continuer à faire des émissions. Notre adresse mail, elle est sur le blog, normalement, sur lequel vous êtes connecté. Sinon, c'est radio, comme une radio, point sans nous, comme on n'est pas là, @cma-pdll.org, radio.sansnous@cma-pdll.org. Et du coup, il y a une demande de nous envoyer un souvenir d'Harry Potter, vos trois livres préférés et votre rapport à votre chambre. Voilà, par mail à radio.sansnous@cma-pdll.org. Et là, du coup, on est dans l'émission chant. Du coup, on va envoyer le jingle chant. Tous les midis, on a une criée. Si vous voulez passer des messages aux autres, voilà, c'est le moment. Si vous avez lu un truc qui vous plaît, c'est le moment de le passer. Si vous avez une chanson qui vous plaît, c'est le moment de le passer. Et là, c'est le moment de...
Pour participer au Blind Test, connecte-toi vite sur le chat.
Allô, maman, bobo ?
Non.
Chat.coombeat.net.
Non.
chat.coombeat.net. Inscris ton blaze, puis en face de Chanel's, tape hashtag radio sans nous.
Eh bien, si vous êtes toutes et tous devant vos claviers, ça va être le moment de lancer la première musique du Blind Test. Prête ? Prêt ? Et c'est parti.
Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin.
La vie fait
des arbres maintenant. La ville est là.
La maison où j'ai grandi, exactement. On passe à la suivante. Chanson d'Hélène, oui. De Romy Schneider, oui. Deuxième difficulté avec une personne en plus que Romy Schneider. Et Picolier, exactement. Alors, les Let It Be, si jamais les gens répondent avant que tu aies entendu, il faut que tu rafraîchisses ta connexion au site. Et si jamais, même si tu recharges la page, voilà, ça prend le temps, on se dira et on pourra demander aux gens d'attendre 2-3 secondes avant de...
Les avions partiront sur nous.
Ça arrive. Non, mais ça arrivait l'autre jour aussi sur Star Wars.
Je ne sais plus t'aimer.
Il y a Lola et Clem qui se foutent de ta gueule.
C'est pas vrai.
C'est parti pour la suivante.
Mmh.
Rien, exactement. Oumous, c'était rien. On en met une autre.
J'ai pris le temps de regarder le monde et d'observer la lune. Donc voici la nouvelle gamme sans paix avec elle-même. Avec elle-même. Je préfère que ça parte aux enfants du désert.
Ok, la suivante.
On m'a prêté quatre vieux murs pour y loger mes quatre membres. Et dans ce réduit très obscur, je voulus installer ma chambre. Pour lui donner un air coquet,
la chambre,
suspendis au mur,
et c'est pas Fernandel.
Les diplômes que j'ai manqués,
c'est pas
et mes décorations absentes sur une table, les photos de celles qui se refusaient. Sur des rayons, les
icônes.
Voir tant de gens qui dorment et s'endorment toute la nuit.
C'était bien Léo Ferré, ouais.
Je finirai par comprendre qu'il faut que je m'endorme aussi. Avoir tant de ceux qui se ferment coucher dans sa lit. Je finirai, c'est fatal, par pouvoir m'endormir.
Barbara, insomnie. Waouh, tu rafles tout, Oumous. Ah non. Non, parce que j'ai pas oublié, t'es là avant et Poudou aussi. Par contre,
mes insomnies, mais on m'a...
Une
soirée pluvieuse, la flemme de bouger, la flemme de bouger. Ambiance canapé, télé jusque tard. Voilà, je suis dans un mauvais
moment.
On m'attend quelque part. Les rues s'allument, les gens sortent comme hier.
Donc c'est bien Angèle, je l'ai déjà dit, mais en fait on m'avait pas entendu. Et c'est bien la flemme aussi.
Bonne nuit, c'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves pour oublier vos ennuis.
Bonne nuit, c'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves, c'est le cinéma gratuit.
Bonne nuit,
c'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves pour oublier vos ennuis.
Bonne nuit, j'ai pas oublié, c'est bien ça. Mousse, bonne nuit, c'est bien ça. Une poule d'eau, c'est pas mal, mais c'est pas bonne nuit sans grand-père.
Si tu te couches à la 10, tu rêveras de bonnes.
Et les vies, c'est bien des fois
mousse, probablement. Si tu te lèves pas des bonnes.
Si tu te couches à minuit.
Mais non, MDB, c'était les tabous de l'heure.
Laisse-moi t'aimer.
J'ai pas oublié de venir, t'as bien fait de venir. C'était bien Laisse-moi t'aimer de Mike Brandt.
Et bravo Van Pierrot aussi.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique. Voleur d'enfort au fond des criques.
Bien, c'est bien, Bachou.
J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour. J'ai fait le mort.
Et c'est bien la nuit, je mens. Alors il y a une contestation au jury de la part de Lévi sur la réponse d'avant parce que Brandt a été écrit comme des machines à laver et du coup voilà on regardera un peu si du coup on peut accepter la victoire pour la réponse d'avant ou pas. On en verra ça à l'académie et on vous tiendra au courant d'ici le prochain apéro.
La nuit, je prends des trains à travers la plaine.
Sinon, on a des propositions de la part de Oumous de bannir Pumbo parce qu'il est en train de trouver le chat. Voilà.
J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho.
On passe à la suivante.
Je voudrais dormir près de toi
Bon, salut, merci pour toi.
Au premier rayon de soleil. Oh, 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 je voudrais.
C'est bien, je voudrais dormir près de toi.
M'enfuir loin dans tes bras pour ne pas.
Bravo les Let It Be, bien joué Sapristi de MDB. Quel fair play. Des envies de danser, a priori. Exactement, Human. Jacob Collier, In My Room. Exactement, dors mon petit quinquin. C'est pas les mêmes paroles, mais... Quelqu'un version NAS, il est possible de nous envoyer les vraies paroles et de l'apprendre aux autres pour la prochaine fois. Voilà. Merci Poudo, il est bien 19h17. Tout le prolétariat en mouvement et la paysannerie de la part de MDB. Et voilà, et le TV dit oui, oui. Pendant ce temps-là, tout le monde, dans ses messages politiques très forts, en oublie la musique qui passe, qui est d'une personne quand même qui est reconnue aussi pour son engagement. Du coup, on a bien parlé de Norah Jones, et du coup, qui fait Chasing Pirates. Voilà, qui actuellement sur le clip lève un beau drapeau de pirate, c'est magnifique. Bon, on va passer à la suivante.
Se régaler, apprécier, déguster vraiment.
Et les pirates sont du goût de houmous. Il nous dit, qu'il nous déclame, pourrait-on même dire, cool les pirates. Voilà, ce qui entraîne une réaction en chaîne, parce qu'à ce moment-là, MDB dit oh.
Oh, man. On est trahi.
bienvenue dans notre atelier. On élabore des recettes, tu ne sais pas tous les râteliers. Notre cuisine reste secrète.
Bienvenue chez les trois pour mes petites poignées, pas de gourmettes. Torche la sauce en deux, trois coulées. Si flash moule la balle, les poulettes.
Si t'as tout, mec, laisse les souffler. On dit compte et même si c'est sur des classiques. La frite de vin basique, son festival de sauce en excès.
C'est un blind test en fait. Du coup, le but du jeu, c'est de dire qui chante et quel est le titre de la chanson. Juste pour rappeler les règles.
Et
whisky, les burgers, même si mythe les calmeurs, avec des pâtes à sauter et de la salade à côté.
Moi, ce que je préfère, c'est le chocolat et le café dans mon lit comme au creux de mon bras.
De l'herbe au désert et du caviar dans le polar. 4 balles en 2Z aux saveurs de grosse gamboise.
On a aiguisé les couteaux, l'instrument a été coupé, passez le bit sous le rouleau.
Bien, si vous ne la connaissez pas, on la passera au prochain blind test jusqu'à que vous soyez capable de la reconnaître. On passe à la suivante.
Vous êtes si jolie quand vous passez le soir à l'angle de ma rue. Parfumées et fleuries avec un ruban noir, toutes de bleu.
Quelle rapidité, Oumous, quelle rapidité.
Quand je vous vois passer,
Fontenay aux Roses du Fox Terrier.
J'imagine parfois des choses insensées, des rendez-vous secrets.
J'ai pas vu venir la nuit, ni les ombres qui passent. On m'a dit que celle-ci porte conseil, si seulement je dormais. 4h du matin, cette musique me dit rien, et je ferme les yeux.
C'est très fort et très fort, c'est Angel. C'est pas la nuit. Insomnie, exactement. C'était peut-être du bluff, mais un bluff qui a rudement bien fonctionné.
J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête, elle n'a rien fait pour ça.
Voilà, parfait. MDB, j'ai pas oublié de venir, vous faites bien la paire. J'ai encore rêvé d'elle une fois. Renault au Renault en toc, c'est ça.
Un beau avec ses cheveux en brosse, elle trouve qu'il est beau dans la chambre du gosse.
Alors, on a une plainte un petit peu là, il y a quelques plaintes quand même actuellement sur le chat. Voilà, des cookies. Ouais. Et du coup, pour les gens qui disent n'écoutez que de la funk et de la trap, et de la musique un peu énervée. Et du coup, vous êtes peut-être aujourd'hui fait comme des rats, mais il suffit en fait, à la fin de l'émission, il y a un Shabadabada sur une thématique, et il suffit de donner les musiques qui vous font penser à ça. Et la fois d'après, on les passe. Voilà, du coup, sinon vous nous les envoyez entre deux émissions, et on les passera dans le blind test.
Elle habitait Germaine, une chambre de bonne, quelque part en cinquième, à côté de la Sorbonne. Les WC sur le palier, une fenêtre sur la cour, en haut d'un escalier qui avait jamais vu le jour. Et
on
sur les murs sans joie, le
Germaine,
pauvre Louis-Louis, il y avait Che Guevara, les pins.
Dis-moi princesse, n'as-tu jamais laissé parler ton cœur? Je vais ouvrir tes yeux.
Vous êtes parfait et parfaite, c'est bien ça. Aladdin, ce rêve bleu. compositeur Disney. une petite Walt de son petit prénom. Pas ici, on est confinés. Oubliez tout. On enlèvera ça au montage.
cette montagne que tu vois. On en viendra à bout, mon gars. Un bulldozer et deux cent bras et passera la route.
Hey, debout les gars, réveillez-vous. Il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous. On va au bout du monde.
Il ne faut pas se dégonfler devant les tonnes de
debout les gars.
On va faire un 14 juillet à coup de dynamite.
Hey, debout les gars, réveillez-vous.
Encore 4. C'est la fin du blind test, 4 titres.
Je suis cloué dans un appartement de deux pièces, n'ayant rien d'autre à faire que de regarder par la fenêtre ce qui se passe chez les voisins.
Il est 15h, je suis réveillé par le bruit de la vaisselle. Le réveil est sec, je me croise les yeux, putain j'ai v'là les cernes. La chambre a pas de serrure, mais c'est une cellule comme ma frêne. Je regarde pas la télé, moi j'ai mieux que ça, j'ai ma fenêtre. Y'a ce gamin crade, il veut pas juste une clope, mais l'intégrale c'est un détail. Un de ces gars, toujours dans le coin, en train de s'égrader. Ils check les grands du check, ils sont toujours à cette terra. Ceux ils vendent pas des CD de rap, je crache des CD, etc.
Pour ce rien, c'est impondérable qui fait qu'on croit à l'incroyable. Au premier regard échangé, pour cet instant de trouble étrange que l'on a.
C'est non, il faut changer la dernière voyelle. Verra, je vous aime.
De se toucher.
Mes trois nuits par semaine, c'est sa peau contre ma peau et je suis avec elle. Et trois nuits par semaine, mais bon Dieu qu'elle est belle.
Exactement, Indochine, trois nuits par semaine. C'est à l'époque où on pouvait encore sortir de chez soi.
Mes nuits blanches ne sont pas blanches, à peine claires, semées d'étoiles, petits trous dans la toile étanche, triste strass sur le voile, et moi envoûtée de ténèbres, je passe des heures infinies à compter les moutons funèbres qui tapissent mes insomnies.
C'est bien ceux qui rêvent de pommes.
Ah,
et c'était notre petite dernière. On va passer à la rubrique suivante. Et pour ça, on a un petit jingle.
Qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle a donc, ma petite chanson.
Un petit air pour se mettre en train, qu'on gardera en tête jusqu'à demain.
Ma petite chanson, sans toi, elle est fichue.
Vous êtes toujours sur Radio Sans Nous, la radio du confinement. Et il est l'heure de l'apéro chant. Et bientôt, on va passer à la petite chanson. Pour la petite chanson, ça sera pas bien nécessaire. Mais après, il y a la grande chanson et ça sera plus nécessaire. Il y a l'ensemble des paroles des chansons qu'on vous apprend qui sont disponibles sur le site covid19.cma-pdll.org et je vous remets le lien du site dans le chat.
Alors, la petite chanson ce soir, c'est celle-ci. Je fais pipi sur le gazon pour embêter les coccinelles. Je fais pipi sur le gazon pour embêter les papillons. Pipi, gazon, papillon, coccinelle. Pipi, gazon, coccinelle, papillon. Voilà. Donc une histoire de pipi sur le gazon. Je fais pipi sur le gazon pour embêter les coccinelles. Je fais pipi sur le gazon pour embêter les coccinelles. On y va ensemble? C'est parti.
Je fais pipi sur le gazon pour embêter les coccinelles.
Alors, et après on va faire.
Je fais pipi sur le gazon pour embêter les papillons.
On y va?
Je fais fais pipi sur le gazon pour embêter les papillons. Est-ce qu'on n'essaierait pas de la prendre depuis le début?
C'est chaud.
Ouais, mais je pense qu'on peut réussir.
Fais pipi sur le gazon pour embêter les coccinelles. Je fais pipi sur le gazon pour embêter les papillons.
C'est toujours un plaisir, MDB, de chanter des comptines pour des... Ça fait plaisir et à moi aussi, du coup. Et après, c'est pipi, gazon, papillon, coccinelle. Pipi, gazon, coccinelle, papillon. Pipi, gazon, papillon, coccinelle. Pipi, gazon, coccinelle, papillon. On se tente?
Pipi, gazon, papillon, coccinelle. Pipi, gazon, coccinelle, papillon.
Est-ce qu'on n'essaierait pas de se la reprendre depuis le tout début? Et on pourrait peut-être même essayer de la chanter deux fois de suite, comme ça si on ne se souvient pas très bien des paroles la première fois, parce que quand même, elle n'est pas simple, on s'en souviendrait la seconde. C'est parti!
Je fais pipi sur le gazon pour embêter les... Je fais pipi sur le gazon pour embêter les papillons. Pipi... Papillon coccinelle. Pipi, gazon, coccinelle, papillon.
Encore en vie?
Je fais pipi sur le gazon pour embêter les coccinelles. Je fais pipi sur le gazon pour embêter les papillons. Pipi, gazon, papillon, coccinelle. Pipi, gazon, coccinelle, papillon.
Radio sans nous.
C'est la grosse chanson.
Alors, il est l'heure de la grosse chanson, mais je tenais à partager le fait qu'il y a eu un énorme conflit dans l'équipe de préparation de cette émission. D'ailleurs, on ne sait pas trop si l'émission va pouvoir continuer, parce que quand même, on n'était vraiment pas d'accord. Parce que moi, je pense que cette chanson devrait aller dans la rubrique « Petite chanson ».
D'ailleurs, on avait une petite chanson qu'on a dit que ça pouvait pas être une petite chanson et qu'il fallait qu'elle aille dans la grosse. Et du coup, on n'a pas pu la faire ce soir, il y a eu une censure.
Bah non, parce que c'était une grosse chanson, on n'allait quand même pas la mettre dans la rubrique « Petite chanson ».
Mais c'est une toute petite chanson, il y a beaucoup moins de paroles que dans la chanson que tu vas apprendre.
C'est fou. Enfin bref. Du coup, on va quand même la prendre, parce que bon, faut pas déconner, quoi. On voulait aussi souhaiter un bon anniversaire à Elodie. Voilà.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Elodie. Joyeux anniversaire.
Voilà, des bisous. C'était un peu une grosse chanson, ça, ou c'était aussi une petite chanson, joyeux anniversaire?
Ah, c'est bon, c'était la grosse chanson, on peut passer à la suivante.
Ok, donc on passe au canon.
Est-ce qu'on peut la faire en canon?
Non. Enfin, on peut, mais ça va être moche.
Vous êtes un peu décalé, vous.
Ouais. Donc la grosse chanson qui en fait est une petite chanson, mais bon, ça voilà, c'est ma maman qui me l'a apprise quand j'étais petite.
Elle s'appelle voilà. Comment ta maman?
Je te le dirai pas. et donc c'est elle est entrée dans l'eau, parce qu'on était sur voilà, on a fait une chanson sur le pipi, alors là on va continuer dans les petites chansons coquines. Oh. Ça fait comme ça. Elle est entrée dans l'eau et elle a mouillé ses petits pieds. Elle est entrée dans l'eau et elle a mouillé ses petits pieds. Elle est entrée dans l'eau et elle a mouillé ses petits pieds. Mais son cou n'est toujours pas mouillé. Voilà, donc parole encore une fois engagée et complexe. On se la refait ensemble ?
Carrément.
Elle est entrée dans l'eau et elle a mouillé ses petits pieds. Elle est entrée dans l'eau et elle a mouillé ses petits pieds. Elle est entrée dans l'eau et elle a mouillé ses petits pieds. Mais son n'est toujours pas mouillé. Alors là, la petite fille continue à entrer dans l'eau et l'eau va atteindre ses petites jambes. Et c'est reparti. Elle est entrée dans l'eau et elle a mouillé ses petites jambes. Elle est entrée dans l'eau et elle a mouillé ses petites jambes. Elle est entrée dans l'eau et elle a mouillé ses petites jambes. Mais son n'est toujours pas mouillé.
Les genoux.
Elle est entrée dans l'eau et elle a mouillé ses petits genoux. Elle est entrée dans l'eau et elle a mouillé ses petits genoux. Elle est entrée dans l'eau et elle a mouillé ses petits genoux. Mais son n'est toujours pas mouillé.
Les cuisses.
Elle est entrée dans l'eau et elle a mouillé ses petites cuisses. Elle est entrée dans l'eau et elle a mouillé ses petites cuisses. Elle est entrée dans l'eau et elle a mouillé ses petites cuisses. Mais son n'est toujours pas mouillé.
Et qu'est-ce qui va se passer après?
On peut pas trop dire ça à la radio quand même.
Ah, bon, on s'arrête là alors.
Non, mais c'est quoi la suite?
Elle est entrée dans l'eau et elle se l'est enfin mouillée. Elle est entrée dans l'eau et elle se l'est enfin mouillée. Elle est entrée dans l'eau et elle se l'est enfin mouillée. Son joli petit maillot de bain rayé.
Oh, j'étais le maillot de bain.
Et ben on peut refaire le dernier parce que je pense que les autres on les maîtrise. Elle est entrée dans l'eau et elle se l'est enfin mouillée. Elle est entrée dans l'eau et elle se l'est enfin mouillée. Elle est entrée dans l'eau et elle se l'est enfin mouillée. Son joli petit maillot de bain rayé.
Oh là là, mais c'est mal calé cette émission, c'est mal calé, c'est mal calé.
La dernière personne qui fait chapeau chinois.
On se voit pas, on est confiné.
Mince.
Du coup, il était l'heure du canon et du coup, on s'était dit que on pouvait chanter une chanson que pas du tout recommandée par les autorités sanitaires. Voilà. Et c'est J'ai du bon tabac. Mais j'ai du bon tabac en canon. Ok. Et on s'est pas du tout dit qu'il apprenait aux autres. Voilà. Ok. Bon, bah, je vais commencer, hein, du coup. Voilà.
Pas du tout, c'est toi.
Oui, tu savais pas. Enchanté.
Okay, bienvenue.
Ok. Alors. C'est comme ça. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac. Tu n'en auras pas. On refait. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac. Tu n'en auras pas. Encore une fois. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac. Tu n'en auras pas. Ça va? Ok. Deuxième partie. J'en ai du bon, j'en ai du bon, j'en ai du bon, j'en ai du bon, mais tu n'en auras pas. Ensemble. J'en ai du bon, j'en
j'en ai du bon, j'en ai du bon, j'en ai du bon, mais tu n'en auras pas.
Ok, super. On va essayer d'enchaîner les deux premières parties avant d'apprendre la troisième. Donc on reprend.
J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'en ai du bon, j'en ai du bon, j'en ai du bon, j'en ai du bon, mais tu n'en auras pas.
Super. Troisième partie, plutôt rebondissante, on pourrait dire.
J'en ai du bon, du bon, et puis des bonbons. J'en ai du bon, du bon, et puis des bonbons. J'en ai du bon, du bon, et puis des bonbons. J'en ai du bon, mais tu n'en auras pas.
Ensemble.
J'en ai du bon, du bon, et puis des bonbons. J'en ai du bon, du bon, et puis des bonbons. J'en ai du bon, du bon, et puis des bonbons. J'en ai du bon, mais tu n'en auras pas.
Encore une fois sur celui-là.
J'en ai les bons, du bon, et puis les bonbons. J'en ai les bons, du bon, et puis les bonbons. J'en ai les bons, du bon, et puis les bonbons. J'en ai les bons, mais tu n'en auras pas.
Ok, on va enchaîner les trois.
J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'en ai du bon, j'en ai du bon, j'en ai du bon, j'en ai du bon, mais tu n'en auras pas. J'en ai du bon, et puis du bonbon, j'en ai du bon, et puis du bonbon, j'en ai du bon, et puis du bonbon, j'en ai du bon, mais tu n'en auras pas. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'en ai du bon, j'en ai du bon, j'en ai du bon, j'en ai du bon, mais tu n'en auras pas. J'en ai du bon, du bon, et puis du bonbon. J'en ai du bon, du bon, et puis du bonbon. J'en ai du bon, du bon, et puis du bonbon. J'en ai du bon, mais tu n'en auras pas. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'en ai du bon, j'en ai du bon, j'en ai du bon, j'en ai du bon, mais tu n'en auras pas. J'en ai du bon, et puis du bonbon. J'en ai du bon, et puis du bonbon. J'en ai du bon, et puis du bonbon. J'en ai du bon, mais tu n'en auras pas.
J'en ai du bon, et puis du bonbon. J'en ai du bon, et puis du bonbon. Du bon, et puis du bonbon. J'en ai du bon, mais tu n'en auras pas.
Super, super.
Raconter une anecdote sur cette chanson.
Vas-y, raconte une anecdote.
Oui, moi je voulais raconter une anecdote sur cette chanson parce que une fois j'étais stagiaire en formation BAFD, donc la formation pour devenir directrice d'accueil collectif de mineurs, de colo ou d'accueil de loisirs, tout ça, tout ça. Et puis il s'était proposé aux stagiaires de mener des temps d'activité pour les autres. Et moi j'avais mené un temps de chant et j'avais appris aux autres stagiaires cette chanson-là en canon. Et là, il y avait une nana dans la formation qui avait dit « Oui, mais quand même, c'est pas bien de nous faire chanter ça parce que le tabac, c'est mauvais pour la santé. » Bon, ce qui est vrai. Mais bon, la chanson, elle n'était pas mauvaise pour la santé. Et du coup, il y avait une autre stagiaire qui lui avait dit « Oui, d'ailleurs, moi, je ne ferai plus jamais chanter Pirouette Cacahuète aux enfants parce que s'il y en a un qui est allergique à l'arachide, il se sentira trop exclu. »
Le déficonnement.
Le déficonnement.
Le déficonnement.
Le défi du confinement.
Du déficonnement. Et sur le déficonnement, ce soir, on veut faire une chanson, non, c'est ça?
Oui.
C'est une chanson, c'est quoi? C'est Debout les gars?
Sauf qu'entre-temps, on a ouvert la boîte aux lettres, on a trouvé des pubs. Et du coup, on s'est dit, oh, on aurait qu'à dire un peu le texte de la pub sur l'air de Debout les gars. Et qu'en même temps,
Bah quand même, on va dire Debout les gars, mais pas sur, mais sur l'air de laquelle on dirait la pub. Bah Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde.
Mais non, l'air c'est pas. International.
Et debout les gars, réveillez-vous, va falloir en mettre un coup. Debout les gars, on va au bout du.
Tout à fait ça, un peu de travail. Pour en profiter au mieux et vous simplifier la vie, découvrez les services associés à votre carte bancaire.
Debout les gars, il va falloir en mettre un coup. Ah, on va au bout du monde.
Profitez-en également pour découvrir ou redécouvrir les cartes Visa de la banque postale, une gamme complète pour répondre aux besoins de chacun.
Allez, debout les gars, on va au bout du monde là. Allez, hop, debout. Debout. Debout les gars, le bout du monde. Debout.
C'est chiant de lire les
un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts.
Et un peu de sucre en poudre.
Est-ce que Akabi et Chancer, vous pouvez bannir la petite bille, voilà, si c'est possible. Merci. Elle vient de dire que je me prenais pour le président du MEDEF. On arrive sur la dernière partie. C'est pas le moment de se déconnecter. Alors YMHEMI, parce que j'ai oublié des trucs. Il est temps de se reconnecter parce que la dernière partie c'est un jeu encore une fois et c'est un shabadabada. Donc tu reviens tout de suite. Je l'ai pas oublié, tu peux revenir aussi. Et du coup le shabadabada, donc le but du jeu c'est de trouver le maximum de chansons sur une thématique. Voilà. Et du coup quand on est face face on peut les chanter, mais même quand on est derrière son ordi on peut les chanter. Et du coup là je vais vous donner un thème et ce thème là ça sera le thème qui nous servira pour le blind test de la prochaine fois. Donc du coup si la prochaine fois il n'y a pas votre style musical c'est que vous n'avez pas fait de proposition ce soir. Et le thème de ce soir est les petites billes, on arrête les commentaires, s'il te plaît. Hein. Le thème de ce soir, Von Pierrot, bienvenue. Le thème de ce soir est partir, s'en aller. Partir, s'en aller, c'est le thème du Shabadabada. C'est parti, on y va. Et c'est parti pour chaud, et c'est parti, tout le monde est chaud. Partir un jour sans retour, sans se retourner. On doit avoir des problèmes de connexion puisqu'on ne voit pas grand chose s'écrire sur le chat. Donc le thème, c'est partir, s'en aller. Alors, un jeudi, tous les 15 jours, on a des soirées scène ouverte. Du coup, en attendant, là, on va se mettre des petits chants de la soirée scène ouverte.
Salut, c'est Lalo. Ce soir, je vais vous chanter une chanson des Têtes Raides sur un texte de Robert Desnos qui s'appelle « L'amour tombe des nues ». Et je dédicace cette chanson à toutes les sorcières comme les autres qui m'entourent. Un samedi du Moyen-Âge, une sorcière qui volait vers le sabbat sur son balai tomba par terre du haut des nuages. Oh, 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 madame la sorcière, voilà tomber par terre. Oh, 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 sur votre derrière et les quatre fers en l'air, vous tombez des nues, toutes nues, par où êtes-vous venue? Sur le trottoir de l'avenue, vous tombez des nues, sorcière saugrenue, vous tombez des nues. Vous tombez des nues sur la partie la plus charnue de votre individu. Vous tombez des nues. On voulait la livrer aux flammes, cette sorcière qui volait vers le sabbat sur son balai pour l'ascension. Quel beau programme! Oh, 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 et voilà que la sorcière a fait un grand rond par terre. Oh, 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 quel coup de tonnerre! Il tombe à l'eau à flot et l'eau tombe des nues, toute nue, éteint la flamme tenue et rafraîchit la détenue. L'eau tombe des nues, averse bienvenue. L'eau tombe des nues, l'eau tombe des nues. Et la sorcière se lave nue, oui, mais dans l'avenue, l'eau tombe des nues. Qu'elle était belle la sorcière, les présidents du Châtelet, les gendarmes et leurs valets la regardaient dans la lumière. Et un éclair qui brille, c'est vos yeux qui scintillent, et votre cœur pétille. Nous sommes sourds d'amour et nous tombons des nues. Elle est nue, oui, mais notre âme est chenue. Nous avons de la retenue, nous tombons des nues, sorcière saugrenue. Nous tombons des nues, nous tombons des nues, qu'on relaxe la prévenue, elle nous exténue. Nous tombons des nues, et je me tombe des nues, tu tombes des nues, le monde entier tombe des nues, l'amour tombe des nues, et vive les femmes nues.
Nos roban amigas, nos matan hermanas. destrozan tu cuerpo, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas. Gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte lo que nos digas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia.
C'est quoi cette censure?
Faire un petit saut, faire deux petits sauts, faire trois petits sauts dans la flaque d'eau. Un petit saut, un petit saut, faire trois petits sauts dans l'eau du ruisseau. Mais pour l'océan, il faut de l'élan, des pas d'éléphant, un saut de géant. Mais pour l'océan, il te faut de l'élan, des pas d'éléphant, un saut de géant. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Saute, saute. Des pas d'éléphant et un saut de géant. Faire un petit saut, faire de petits sauts, faire trois petits sauts dans la flaque d'eau. Faire un petit saut, faire de petits sauts, faire trois petits sauts dans l'eau du ruisseau. Mais pour l'océan, il faut de l'élan, des pas d'éléphant, un saut de géant. Oui, pour l'océan, il te faut de l'élan, des pas d'éléphant, un saut de géant. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Saute, saute. Saute, saute, des pas d'éléphant et un saut de géant. Wow, wow. Et un saut de géant. Ouais, des pas d'éléphant. Ouais, ouais. Saute, saute, saute dans la flaque d'eau. Mais pour l'océan, il te faut de l'élan. Quart de lune pour en faire un hochet.
J'ai pris une demi-lune pour en faire un bateau plus léger que la plume du grand oiseau. Quart de lune pour en faire un berceau plus léger que la plume,
plus léger que la plume
du grand oiseau,
du grand oiseau.
Ben, il est venu pour nous le temps de vous dire au revoir. Au revoir. Et du coup, la soirée continue comme tous les soirs. Du coup, là, il va y avoir des chants de Ronnie et les featuring. Et puis, on a reçu quelques histoires sur notre mail, des histoires qui nous viennent de l'Est. Du coup, il y a la lecture de ces histoires-là. Et après, ça continue avec la lecture d'un livre audio donc qu'on avait commencé à passer hier soir, qui est « L'univers expliqué à mes petits-enfants » de Hubert Reeves. Voilà. Eh ben, bonne soirée à vous.
Belle lune, belle, où vas-tu là-bas? Belle lune, belle, que cherches-tu là? Je cherche un nuage pour passer la nuit. Je cherche un nuage pour me faire un lit. Je cherche un nuage pour passer la nuit. Je cherche un nuage pour me faire un lit. Belle lune, belle lune, belle, que regardes-tu? Belle lune, belle, à qui souris-tu? Je vois dans un rêve, en pyjama bleu, l'enfant de la terre qui ferme les yeux. Je vois dans un rêve, en pyjama bleu, l'enfant de la terre qui ferme les yeux. Belle lune, bonne nuit la lune, sur ton nuage lit. Bonne nuit la lune, bonne nuit et à moi aussi. Si tu te réveilles, ne fais pas de pluie, car sans ton nuage qui me sert d'abri. Si tu te réveilles, ne fais pas de pluie, car c'est ton nuage qui me sert d'abri. D'abri.
Le petit tailleur. Il était une fois un petit tailleur qui avait toujours fait des vêtements pour les autres et jamais pour lui. Un jour, dans un placard, il trouve un grand morceau de tissu, tout beau, tout bon, tout neuf. Alors, il décide de se faire un manteau. Et son manteau est tellement réussi, il lui va tellement bien, qu'il le porte pendant des jours, il le porte pendant des semaines, il le porte pendant des mois, il le porte pendant des années, il le porte tellement qu'un jour, le beau manteau est usé, râpé, fichu, foutu. Alors le petit tailleur décide de le jeter. Mais avant, il le regarde de plus près et trouve un bon morceau de tissu qui est encore tout beau, tout bon, tout neuf. Alors, il décide de se faire une veste. Et sa veste est tellement réussie, elle lui va tellement bien, qu'il la porte pendant des jours, il la porte pendant des semaines, il la porte pendant des mois, il la porte pendant des années, il la porte tellement qu'un jour, la belle veste, elle est usé, râpé, fichu, foutu. Alors le petit tailleur décide de la jeter. Mais avant, il la regarde de plus près et trouve un morceau de tissu, un petit morceau de tissu, qui est encore tout beau, tout bon, tout neuf. Alors il décide de se faire un gilet. Et son gilet est tellement réussi, il lui va tellement bien, qu'il le porte pendant des jours, il le porte pendant des semaines, il le porte pendant des mois, il le porte pendant des années, il le porte tellement qu'un beau jour, le beau gilet est usé, râpé, fichu, foutu. Alors le petit tailleur décide de le jeter. Mais avant, il le regarde de plus près et trouve un tout petit morceau de tissu qui est encore tout beau, tout bon, tout neuf. Alors, il décide de se faire une casquette. Sa casquette est tellement réussie, elle lui va tellement bien, qu'il la porte pendant des jours, il la porte pendant des semaines, il la porte pendant des mois, il la porte pendant des années, il la porte tellement qu'un jour, la belle casquette, elle est usée, râpée, fichue, foutue. Alors, le petit tailleur décide de la jeter. Mais avant, il la regarde un peu plus près et trouve un tout petit, petit morceau de tissu qui est encore tout beau, tout bon, tout neuf. Alors, il décide de se faire une boutonnière. Sa boutonnière est tellement réussie, elle lui plaît tellement qu'il la garde avec lui. Pendant des jours, il la garde pendant des semaines, il la garde pendant des mois, il la garde pendant des années, il la garde tellement qu'un jour, la belle boutonnière, elle est usée, râpée, fichue, foutue. Alors, cette fois-ci, le petit tailleur décide vraiment de la jeter. Mais avant, il la regarde de plus près et il trouve un minuscule morceau de fil. Et savez-vous ce qu'il a fait avec ce fil? Moi non plus, mais c'était le fil de mon histoire.
J'ai vu une licorne manger des pots de corne avec des paillettes sur son zizi.
3, 4. Dans l'air
maladie de Crohn. Des champignons, des blancs, des verts et des oranges. J'ai ramassé des champignons, je les ai mis dans mon panier rond. Champignons, champignons, champignons ramassés. J'ai ramassé des champignons, des bleus, des verts et des oranges. J'ai ramassé des champignons, je les ai mis dans mon panier rond. Champignons ramassés, champignons ramassés. Pick it up, pick it up. Champignons, champignons. Tiens les sept. Nous avons dit. J'ai ramassé des champignons, des blancs, des verts et des oranges. J'ai défendu de les manger, alors je les ai replantés. Champignons, champignons. Replantés, champignons. J'ai ramassé des champignons, des bleus, des verts et des oranges. J'ai défendu de les manger, alors je les ai replantés. Champignons, replantés. Champignons replantés. Champignons replantés. Champignons replantés. T'es là, t'es là.
Je ne connais pas le titre de l'histoire que je vais vous raconter. Il y a longtemps, dans un pays lointain, régnait un terrible et puissant sultan. Or, ce sultan avait condamné à mort un homme qui avait été surpris en train de voler des fruits dans son jardin. L'homme tenta d'attendrir le sultan, lui expliquant qu'il était trop pauvre pour nourrir ses enfants. Mais celui-ci fut intraitable et déjà on annonçait l'exécution. Se présenta alors au palais une femme à la robe tachée de terre. Elle se jeta aux pieds du sultan, l'implorant « Si tu condamnes cet homme, tu feras 8 orphelins !» Pensant trouver du plaisir à un jeu ignoble et cruel, le sultan lui répondit « Si tu veux sauver ton époux, reviens dans 3 jours me dire lequel de tes 8 enfants tu aimes le plus. » Pendant 3 jours et 3 nuits, la pauvre femme ne put dormir, torturée par ce choix impossible. Pourtant, au matin du 4e jour, elle reparut devant le sultan et lui dit d'une voix très douce « Celui que j'aime le plus, c'est le plus petit, jusqu'à ce qu'il soit grand. C'est celui qui est parti, jusqu'à ce qu'il soit de retour. C'est celui qui est malade, jusqu'à ce qu'il soit guéri. » Le sultan regarda la femme en silence, puis lui dit « Va, ton époux aura la vie sauve. »
Promenons-nous dans les bois avant que le loup n'y ait pas. Si le loup y était, il nous mangerait, ouais. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas, il nous mangera pas. Loup, où es-tu? Loup, où es-tu? Loup, que fais-tu? Loup, où es-tu? Je mets ma culotte et mes chaussettes. Thank you.
sais pas. Mais quand il n'y est pas, il nous mangera pas, il nous mangera pas. Loup es-tu, loup es-tu, loup, que fais-tu? Loup es-tu, loup, je mets ma chemise et mon pantalon.
Y'en a un qui font, il reste petit mouton.
y'en a un qui font il reste plus petit mouton. Y'en a un qui font il reste plus petit mouton, plus petit mouton. Mais qu'est-ce qu'ils font tous ces petits moutons? Ou à courir dans la neige, le joli manège. Mais qu'est-ce qu'ils font tous ces petits moutons? Dans la neige, courir dans la neige, le joli manège, le joli manège. Mais qu'est-ce qu'ils font, tous ces petits moutons, moutons, à courir dans la neige, à courir dans la neige, le joli manège, le joli manège.
La bougie.
Prélude. Le titre de ce livre me rappelle l'art d'être grand-père de Victor Hugo. Dans un monde où les couples n'ont plus la solidité d'antan, les grands-parents sont devenus des repères importants, d'autant qu'ils accompagnent en général plus longtemps la vie de leurs petits-enfants. J'ai 8 petits-enfants, Emmanuel, Raphaël, Dorian, Elsa, Cyprien, Sévan, Massis et Noé, dont les âges vont de 6 mois à 21 ans. C'est à eux que je dédie ce livre. En commençant à l'écrire, j'ai pris conscience de la valeur symbolique que je pouvais lui donner, celle d'un testament spirituel. Que voudrais-je raconter à mes petits-enfants de l'histoire de ce grand univers qu'ils continueront à habiter après moi? Comment les aider à transmettre à leur tour ces connaissances? J'ai choisi de m'adresser à des enfants d'un âge voisin de 14 ans, et aussi, bien sûr, à tous ceux qui veulent en savoir plus sur notre cosmos et sur son histoire. Premier chapitre. Une soirée d'observation.
Grand-papa, quand j'ai dit à mes amis que nous allions écrire ensemble ce livre sur l'univers, ils m'ont posé des tas de questions à te transmettre.
Par exemple,
quelle est la dimension de l'univers? Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Est-ce qu'il y aura une fin du monde? Et ça va se passer comment? Et puis, y a-t-il d'autres planètes habitées? Crois-tu aux extraterrestres? Mes amis me disent aussi que dans tes livres, tu fais beaucoup de comparaisons culinaires. Ils me parlent du potage aux lettres et du pudding aux raisins que ta mère préparait.
Nous allons parler de tout cela. Grâce aux sciences, et en particulier à l'astronomie, nous comprenons maintenant beaucoup de choses. Mais il y a des quantités de questions qui restent sans réponse. Beaucoup d'énigmes non résolues. Je vais t'en faire part pour que tu n'aies pas l'impression que nous savons tout. Notre univers reste encore profondément mystérieux. Étends-toi bien sur ton transat et ferme les yeux. Respire profondément. Porte ton attention sur toutes les parties de ton corps, tes pieds, tes mains, tes doigts, tes yeux, tes oreilles, ton nez. Tu y es?
Oui, je sens tout mon corps.
Pour chacun d'entre nous, l'univers commence par ça. Ce que tu sens, ce qui te permet de voir, d'écouter, de percevoir à la fois ton monde intérieur et le monde extérieur. Tu fais partie de l'univers, et c'est par ton corps et ton esprit que nous allons l'explorer. Ouvre les yeux maintenant. C'est la nuit, le ciel est clair, il y a des étoiles partout, des brillantes et d'autres très faibles, à peine visibles à l'œil nu. Il y a la terre qui nous porte et la pâle lune. L'univers, c'est tout cela. Tout, tout, tout. Mais pour commencer, dis-moi, quel âge as-tu?
J'aurai bientôt 14 ans.
Où étais-tu il y a 20 ans?
Mais je n'existais pas, grand-papa.
Bien sûr, moi j'existais, pas toi. Puis il y a eu un événement extraordinaire. Tu es né, tu es venu au monde, tu as commencé à exister. Tu es entré dans l'univers. Avant, tu n'y étais pas. Je ne te parle pas du jour de ta naissance, qui est maintenant la date de ton anniversaire. Je parle du moment, environ 9 mois auparavant, où ton père et ta mère t'ont conçu en faisant l'amour. Ce jour est pour toi bien plus important que celui de ton anniversaire. Ce jour-là, tu es apparu sur une petite planète, la Terre, qui tourne autour du Soleil, qui lui-même tourne autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée, une des innombrables galaxies de notre univers. Cela s'est passé dans le ventre de ta mère. Des millions de petites cellules avec une longue queue, les spermatozoïdes, ont été injectées par ton père. Les voilà engagées dans une course de vitesse. Elles se dirigent précipitamment vers l'ovule qui attend et qui sera l'autre moitié de toi. Quelle ardeur dans la compétition! De tous ces prétendants, un seul nous importe ici, celui qui gagnera la course. Il va pénétrer dans l'ovule et le fertiliser. Les autres vont mourir. Et toi, tu viens d'entrer dans l'existence grâce à ces deux cellules qui, en s'unissant, sont devenues toi. Tu es maintenant une habitante du cosmos. C'est à ce moment que tu commences à vivre la longue aventure de ta vie. Pendant les 9 mois qui suivent, le petit ovule fertilisé devient un embryon, puis ensuite un fœtus. Les cellules de ton corps se mettent en place pour te permettre de vivre et de connaître le monde dans lequel tu es entré le jour de ta naissance, quand tu es sorti du ventre de ta mère. Plus tard, tu as ouvert les yeux, tu as regardé le monde et tu t'es préparé à me poser des questions comme celle-ci. « Grand-papa, c'est quoi l'univers ?» Mais déjà, je vais te donner une information étonnante. S'il n'y avait pas eu, bien avant ta naissance, des étoiles dans le ciel, tu n'existerais pas, tu ne serais pas né, ni moi d'ailleurs. Nous ne serions pas ici en train de parler.
Je ne peux pas imaginer que les étoiles si lointaines dans le ciel ont quelque chose à voir avec mon existence. C'est merveilleux. Comment peux-tu savoir ça?
Nous allons y venir. Mais avant, je vais t'expliquer beaucoup de choses. Chapitre 2. À quelle distance sont les étoiles?
Je ne regarderai plus jamais les étoiles de la même façon. Mais je n'arrive pas à savoir si elles sont proches ou lointaines. Explique-moi, comment peut-on connaître, par exemple, la distance entre la Terre et le Soleil?
Nous allons commencer par nous intéresser à notre Soleil. Ce soir, nous allons à notre observatoire pour le voir se coucher. Cette grosse boule lumineuse qui descend lentement vers l'horizon, c'est une étoile comme celle que nous voyons la nuit. Mais les autres étoiles sont si loin qu'elles nous paraissent bien peu lumineuses en comparaison. Parmi toutes les étoiles du ciel, nous avons la chance d'en avoir une tout près de nous.
Oui, mais à quelle distance?
Évidemment, il est plus loin que les montagnes derrière lesquelles il va se coucher.
Beaucoup plus loin?
Les hommes se sont posés cette question pendant très longtemps avant de trouver la réponse. Certains disaient qu'il était très loin, d'autres qu'il était tout près. On raconte qu'un prisonnier nommé Icar et son père avaient projeté de s'enfuir en s'élevant dans le ciel grâce à deux ailes fixées dans le dos avec de la cire. Mais Icar commit une imprudence fatale en s'approchant du soleil. La cire fondit et il se noya dans l'océan.
Mais alors, comment peut-on mesurer ces distances?
Il y a plusieurs méthodes. En voici une qui sert par exemple pour la Lune et le système solaire. Rappelle-toi nos promenades dans les montagnes l'été dernier. Nous nous amusions à crier pour écouter l'écho de nos voix. Selon la distance, il nous revenait après un temps plus ou moins long. Le son, notre cri, voyage très vite, 300 mètres par seconde. Si l'écho parvient après 2 secondes, 1, 2, tu sais que la falaise est à 300 mètres. 1 seconde pour l'aller, 1 seconde pour le retour. Pour mesurer les distances dans le système solaire, on utilise la même méthode, pas avec le son comme pour l'écho en montagne, mais avec la lumière.
Il y a des échos de lumière.
Oui, comme il y a des échos de son, mais bien plus rapide. La lumière va 1 million de fois plus vite que le son. Aujourd'hui, pour mesurer la distance de la Lune, on envoie un rayon radar, une sorte de lumière, vers sa surface. L'écho revient de la Lune en 2 secondes, 1 pour aller, 1 pour revenir. La Lune est à 1 seconde lumière. Pour aller au Soleil, la lumière met 8 minutes. On dit que le Soleil est à 8 minutes lumière. Il y a quelquefois de gros orages qui éclatent à la surface du Soleil. Des éclairs embrasent sa surface. Mais on ne les voit que 8 minutes plus tard. Quand nous les observons sur la Terre, nous savons qu'ils ont eu lieu 8 minutes plus tôt. Pourquoi ? Parce que la lumière de ces éclairs a dû parcourir la distance entre le Soleil et nous.
Ça veut dire que le Soleil que nous observons ce soir est le Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes? Comment est-il maintenant? A-t-il changé en 8 minutes?
Pour le savoir, il nous faut attendre 8 minutes. En fait, nous sommes juste à bonne distance de notre étoile. Plus loin, il ferait très froid et nous ne pourrions pas vivre. Plus près, il ferait trop chaud et l'eau de l'océan s'évaporerait. Sans eau liquide, il n'y aurait pas de vie non plus. C'est parce que notre Terre est à une bonne distance du Soleil que la vie a pu se développer et que nous y vivons confortablement. Attendons maintenant la nuit. Le Soleil est couché. Les étoiles apparaissent dans le ciel, leur lumière a voyagé longtemps avant de nous arriver sur la Terre. Certaines de ces étoiles que nous voyons sont situées à des dizaines, des centaines et même des milliers d'années-lumière. Par exemple, l'étoile polaire, celle qui nous indique le nord, est à 430 années-lumière. Pour nous arriver aujourd'hui, sa lumière est partie de l'étoile autour de l'année 1580.
Et les 3 étoiles que tu appelais les rois mages dans la constellation d'Orion, elles sont à quelle distance?
Leur lumière a voyagé pendant 1500 ans avant d'entrer dans nos yeux. Elle est partie à la fin de l'Empire romain, voyageant pendant tout le Moyen Âge, la Renaissance et les époques récentes. Elle filait à travers l'espace et nous arrive enfin. Bien sûr, nous ne pourrions pas mesurer les distances parcourues par la méthode des échos. Il faudrait attendre 3000 ans pour l'aller-retour. On utilise d'autres méthodes. Tu pourras les lire dans les ouvrages d'astronomie. Et maintenant, si tu regardes des images prises du cosmos avec de grands télescopes, tu vois une multitude de galaxies. Ici, les distances sont beaucoup plus grandes encore. La lumière de certaines d'entre elles a été émise bien avant la naissance de la Terre et du Soleil. Elles voyagent pratiquement depuis le début de l'univers.
Comment peut-on savoir ce qu'elles sont devenues? Peut-être qu'elles n'existent plus?
La question se pose. On pense que nombre d'entre elles ont été avalées par les plus grosses. Il y a beaucoup de cannibalisme chez les galaxies. Mais pour le vérifier directement, il faudrait patienter des milliards d'années. Retiens bien cette information. Quand tu observes un astre lointain, tu le vois tel qu'il était dans un lointain passé et non pas tel qu'il est aujourd'hui. On peut résumer cela en disant « Regarder loin, c'est regarder tôt ». Les astronomes ont à leur disposition une machine à remonter le temps dont rêveraient tous les historiens terrestres. Elle nous permet d'observer en direct le passé du cosmos. Par exemple, pour savoir comment était l'univers au moment de la naissance du Soleil, il y a 4,5 milliards d'années, il suffit d'observer des astres qui sont à 4,5 milliards d'années-lumière de nous. C'est ce que les astronomes font aujourd'hui avec leurs puissants télescopes. Ainsi, nous pouvons reconstituer l'histoire de l'univers. Chapitre 3. De quoi sont faites les étoiles?
Tu m'as dit que les étoiles sont très loin, mais qu'elles ont joué un rôle important dans notre existence, ici, sur la Terre. Moi, je ne vois que des petits points lumineux. Comment peut-on savoir de quoi elles sont faites? Et comment ont-elles pu contribuer à notre vie?
Pour répondre à ta question, je vais revenir sur des notions qui te sont peut-être déjà familières. On va parler d'atomes et de lumière.
Oui, j'ai appris des choses à ce sujet, mais je ne comprends pas très bien. Explique-moi et fais comme si je ne savais rien du tout.
Entendu. On recommence à zéro. Regarde autour de toi. Tu perçois un grand nombre de substances différentes. La terre, les pierres qui forment le sol où tu marches, l'eau que tu bois, l'air que tu respires, ta nourriture, les fruits et les légumes, et aussi ton corps que tu sens. Une des plus grandes découvertes de la science a été de montrer que toutes ces substances, si nombreuses et si différentes, sont en fait des combinaisons de petites particules qu'on appelle les atomes. Ils portent des noms que tu connais, l'oxygène, le carbone, le fer, le chlore, le sodium, l'hydrogène, l'hélium, l'or, etc. Il y en a environ une centaine. Je te donne quelques exemples. L'eau est composée d'hydrogène et d'oxygène. Le sel de table, de chlore et de sodium. Les pierres sont surtout constituées d'oxygène, de silicium, de fer, de magnésium. Ton corps, c'est essentiellement de l'oxygène, du carbone, de l'azote, de l'hydrogène. L'air que tu respires, c'est surtout un mélange d'oxygène et d'azote. Cette idée que les substances que nous percevons sont des combinaisons d'atomes date déjà de plus de 2000 ans. Elle a été proposée par des philosophes grecs comme Démocrite et Lucrèce. Mais c'est au XVIIIe et au XIXe siècle que les chimistes ont pu démontrer sa validité.
Tout ça, c'est sur la Terre. Est-ce pareil pour les étoiles et les planètes? Comment savoir si le Soleil est fait d'atomes comme nous? Il est si loin et les atomes sont si petits.
Pour te répondre, il faut maintenant que je te parle de la lumière et des couleurs. Commençons avec les lampes fluorescentes utilisées dans les enseignes lumineuses de publicité. Il y a bien sûr le rouge de Coca-Cola qui est émis par des atomes d'hydrogène enfermés dans des tubes de verre. Il y a encore le jaune, des lampes qui éclairent les tunnels routiers et qui contiennent du sodium. Et aussi le violacé des lampes à vapeur de mercure.
Comment fait-on pour que ces atomes émettent de la lumière?
Quand on donne de l'énergie à un atome, par exemple en lui envoyant de l'électricité, il s'en débarrasse en émettant de la lumière. Chaque variété d'atomes émet une lumière composée de couleurs particulières. L'hydrogène s'illumine surtout en rouge, le sodium en jaune, le mercure en violacé. Ces couleurs constituent une sorte de signature qui permet de les reconnaître. Et cela, où qu'ils soient, sur la Terre ou dans l'espace et même aux confins de l'univers.
Alors, c'est en observant les couleurs des étoiles qu'on peut connaître leur composition? C'est génial! Qui a eu cette idée?
C'est un astronome allemand, Joseph von Fraunhofer, qui réalisa pour la première fois en 1811 l'analyse de la lumière du Soleil. On y a retrouvé la signature d'une grande variété d'atomes différents, de l'hydrogène, du calcium et bien d'autres. Donc, le Soleil est, comme nous, composé d'atomes. Ainsi en est-il des étoiles, des planètes et de tous les astres observés dans l'univers. On y retrouve chaque atome que nous connaissons, et seulement ceux que nous connaissons. On n'a pas observé dans le ciel de variétés d'atomes qui seraient inconnues sur la Terre. Tu entrevois l'importance de cette découverte. Grâce aux couleurs des lumières que nous recevons dans nos télescopes, nous pouvons connaître la composition atomique de tout ce qui brille dans le ciel. Pour la petite histoire, vers la même époque, un philosophe français, Auguste Comte, incluait dans une série de découvertes selon lui impossibles la connaissance de la composition chimique du Soleil. Comme quoi, il ne faut jamais dire « c'est impossible ».
Chapitre 4.
De quoi se chauffe le Soleil? J'ai tenu à venir ce soir avant le coucher du Soleil. Tu m'as dit que tu voulais me poser d'autres questions à son sujet. Profitons de sa présence avant qu'il ne disparaisse.
J'aimerais savoir depuis combien de temps il existe comme ça dans le ciel et comment il arrive à produire tant de lumière et tant de chaleur.
Ce sont des questions que les hommes se sont posées pendant des milliers d'années. Mais on ne connaît les réponses que depuis environ un siècle seulement. C'est tout récent. Je vais d'abord te donner ces réponses et je te dirai ensuite comment on les a trouvées. C'est toujours intéressant de revenir sur le passé et de raconter comment les problèmes se sont d'abord posés avant d'en trouver les solutions. Le Soleil se chauffe à l'énergie nucléaire, tout comme les réacteurs qui sont une importante source d'énergie électrique dans plusieurs pays. Il brille depuis plus de 4,5 milliards d'années. L'histoire de cette découverte commence par les études des géologues au 18e et 19e siècle. En fouillant les strates du sous-sol, ils ont extrait des restes fossilisés de plantes et d'animaux qui vivaient il y a des centaines de millions d'années. Comme la vie a besoin d'une source de chaleur permanente, cela prouve que le Soleil brillait déjà dans ces temps reculés. Ce qui a évidemment entraîné des questions. Quelle pouvait être la source d'énergie qui permettait à notre astre de produire tant de chaleur depuis si longtemps? Comment arrivait-il à briller sans épuiser ses réserves d'énergie? Au 19e siècle, les scientifiques ne connaissaient pas l'existence de l'énergie nucléaire. Elle a été découverte au début du 20e siècle. Supposons que le Soleil soit une immense boule de charbon de même volume, se consumant lentement. À la vitesse à laquelle il brûle et se transforme en lumière qui réchauffe notre planète, en combien de temps épuiserait-il sa réserve d'énergie? La réponse est simple, pas plus de 1 ou 2 millions d'années. Problème. Ce n'est pas suffisant. Quand on sait que les dinosaures existaient déjà il y a 2 ou 3 centaines de millions d'années, on a alors logiquement supposé qu'il existait une autre forme d'énergie, inconnue à cette époque, capable de permettre au Soleil de briller beaucoup plus longtemps. Cette forme d'énergie, on l'a trouvée au début du XXe siècle. C'est l'énergie nucléaire. Le Soleil, comme presque toutes les étoiles, est composée surtout d'hydrogène. En son centre, la température est de 14 millions de degrés. Cette température fait entrer l'hydrogène en réaction nucléaire qui donne de l'énergie. En se consumant, l'hydrogène se transforme en hélium, comme sur la Terre dans une bombe H inventée par les humains.
Mais le Soleil n'explose pas.
C'est toute la différence. Dans le Soleil, l'énergie est émise d'une façon continue. Ça s'appelle la fusion contrôlée. Sur la Terre, on sait faire des bombes, mais on ne sait pas encore contrôler le débit d'énergie. C'est un projet de recherche très actif. Cette combustion de l'hydrogène du cœur solaire est également la source d'énergie de toutes les étoiles de notre ciel. Elle a deux effets importants. D'abord, elle dégage de l'énergie qui se transforme en lumière et en chaleur. Les réserves d'énergie nucléaire du Soleil sont suffisantes pour lui permettre de briller pendant 10 milliards d'années. Plus de problème avec l'âge des dinosaures. Ensuite, elle produit de nouveaux atomes. 4 hydrogènes fusionnent en un hélium. Plus tard, l'hélium lui-même va se transformer en carbone, azote et oxygène. Et plus tard encore, par le même phénomène de réaction nucléaire, presque tous les atomes du cosmos vont se former à l'intérieur des étoiles vieillissantes.
Mais si ces atomes se forment dans les étoiles, comment sont-ils arrivés jusqu'à nous?
Les étoiles ne vivent pas indéfiniment. Elles meurent quand elles ont épuisé leurs réserves d'énergie nucléaire. Notre Soleil, selon nos calculs, va mourir dans environ 5 milliards d'années. Il aura alors l'aspect d'une grande nébuleuse.
Est-ce qu'on en voit ce soir?
Regarde le ciel. Tu vois les trois belles de l'été, Vega dans la Lyre, Deneb dans le Cygne et Altaïr dans l'Aigle. Il y a une très belle nébuleuse près de l'étoile Vega, mais il faut un télescope pour la voir. Toute la matière d'une étoile agonisante, y compris les nouveaux atomes qu'elle aura formés au cours de sa vie, va se répandre dans l'espace et plus tard s'intégrer à des nébulosités de la Voie lactée. De nouvelles étoiles pourront y naître. Certaines auront des planètes, comme notre Terre. On y retrouvera des atomes engendrés dans les étoiles défuntes.
Peut-on savoir comment le Soleil est né et comment il va mourir?
Pour comprendre, nous irons nous promener dans la forêt voisine. C'est une chênaie. Les chênes peuvent vivre très longtemps, bien plus longtemps que nous, parfois jusqu'à 1000 ans et plus. Personne ne pourrait observer tous les événements de la vie d'un seul chêne. Mais en nous promenant dans la forêt, on peut voir des chênes de tous les âges. Des bébés chênes, encore attachés au gland qui leur a donné naissance, des petits chênes avec seulement quelques feuilles, de grands arbres majestueux, de vieux chênes déjà agonisants, et enfin, au sol, des arbres morts couverts de lierre et de champignons qui pourrissent lentement. On peut ainsi reconstituer l'ensemble des éléments de la vie d'un chêne sans avoir à attendre des siècles. Aujourd'hui, nous connaissons bien la vie des étoiles. Nous savons qu'elles naissent dans certaines régions de la galaxie que nous appelons des pouponnières d'étoiles. Elles se forment quand de grandes nébuleuses gazeuses s'effondrent sous leur propre poids. Nous appelons nébuleuses protosolaires celles qui a donné naissance à notre Soleil et au système solaire avec ses planètes, ses météorites, ses comètes. Nous savons comment les étoiles vivent et meurent. Pour chacune, nous pouvons connaître son âge et le temps qui lui reste à vivre. Le ciel au-dessus de nos têtes est comme une immense forêt d'étoiles. Comme pour les chênes, on en voit de tous les âges. De toutes jeunes, des étoiles à la moitié de leur vie, c'est le cas de notre Soleil, des étoiles vieillissantes, des débris d'étoiles mortes. Nous avons sous les yeux toutes les étapes de la vie de notre Soleil, son passé et son avenir, sans avoir à attendre les 5 milliards d'années de la fin de sa vie. Chapitre 5. Comment évaluer l'âge du Soleil? Maintenant que le Soleil a disparu et que les étoiles commencent à briller, allons parler d'elles si tu veux bien.
Mais tu ne m'as pas dit comment on a pu mesurer l'âge du Soleil.
Il faut parler à nouveau des atomes. Au début du XXe siècle, grâce aux travaux de Pierre et Marie Curie, on découvre que certains atomes, parmi les plus gros, l'uranium par exemple, ont une étrange propriété. Ils ne sont pas stables. Après un certain temps, ils se cassent en morceaux en émettant de la chaleur. On dit qu'ils se désintègrent. Une variété d'uranium, l'uranium-235, se casse en moyenne après 1 milliard d'années.
Est-ce que tous ces atomes se cassent en même temps?
Non, c'est progressif. Cela veut dire qu'après 1 milliard d'années, la moitié des atomes d'uranium présents au départ se sera désintégrée. Après 2 milliards d'années, il n'en restera plus qu'un quart. Après 3 milliards d'années, il en restera un huitième, etc. On dit que l'uranium-235 a une demi-vie d'1 milliard d'années.
Où les trouve-t-on?
On en trouve de faibles quantités dans certaines pierres. Quand tu y poses la main, tu sens la chaleur. En concentrant ces atomes, on obtient le combustible des réacteurs nucléaires et aussi des bombes atomiques. Mais ces atomes ont une autre utilité. Ils peuvent servir de chronomètre. On mesure la quantité d'atomes radioactifs dans une pierre. Moins il reste d'atomes radioactifs, plus la pierre est vieille. On peut ainsi obtenir l'âge des pierres de la Terre et aussi celui des météorites.
C'est quoi une météorite?
C'est un petit corps rocheux qui tourne autour du Soleil comme les planètes. Il y en a de toutes les dimensions. Les plus petites sont comme des sortes de gravillons. En entrant dans l'atmosphère, les météorites se volatilisent et laissent une trace dans le ciel. Souviens-toi de ces belles étoiles filantes du mois d'août de l'an dernier. Certaines météorites, de plus grande dimension, tombent parfois sur la Terre. Elles contiennent généralement, en faible quantité, différentes sortes d'atomes radioactifs, avec chacune sa propre demi-vie. On a d'abord été frappé par le fait que presque toutes ces météorites affichent le même âge, 4 milliards 500 millions d'années. Quand les cosmonautes sont allés sur la Lune, ils ont ramassé des pierres au sol. Ils les ont ramenées et ont mesuré leur âge de cette façon. Résultat, le même âge que les météorites.
Pourquoi tous ces objets ont-ils le même âge?
Rappelle-toi que les étoiles et leurs planètes se forment ensemble à partir d'une nébuleuse de gaz et de fines poussières. On en déduit que l'âge mesuré pour les météorites et les pierres lunaires est également l'âge de la nébulosité protosolaire et donc celui du Soleil. Tout ce petit monde est né en même temps il y a 4,5 milliards d'années. Chapitre 6. Nous sommes des poussières d'étoiles.
Maintenant, le soleil est couché et le ciel est magnifique ce soir. On voit des étoiles partout. Dans un de tes livres, tu as écrit « Nous sommes des poussières d'étoiles ». Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est encore là une des grandes découvertes de la science contemporaine. Une découverte qui nous relie au monde des étoiles. Touche ton front en regardant le ciel. Croirais-tu que les atomes qui forment ton corps sont nés dans les étoiles? C'est bien ce que les astronomes ont découvert grâce à leurs télescopes et à leurs patients travaux. Comme je te l'ai déjà dit, au centre des étoiles, il fait très chaud, des millions de degrés, et des réactions nucléaires ont lieu. Elles engendrent de nouveaux atomes qui s'accumulent dans le corps de l'astre. Plus tard, après la mort et le démembrement de chaque étoile, ces atomes errent dans l'espace. Un certain nombre vont se retrouver dans la matière qui constitue notre planète. Ils circulent dans les sols et dans les océans. Et un jour, ils entrent dans les cycles de vie de toutes les espèces. Depuis, ces atomes composent chaque individu et ta nourriture t'en apporte constamment. On peut vraiment dire que nous sommes des poussières d'étoiles. En ce sens, les étoiles sont les arrière-grand-mères de tous les humains de toutes les époques et de tous les vivants au monde. Après la mort, les atomes de notre corps retournent à la terre des cimetières. Ils peuvent être réutilisés dans l'élaboration d'autres êtres vivants, des plantes ou des animaux. Les atomes ne meurent pas. Ils sont continuellement recyclés dans un immense circuit qui implique toute la planète.
Et est-ce que ça va continuer longtemps?
Jusqu'à la mort du Soleil, dans 5 milliards d'années environ. À ce moment-là, notre étoile va passer du jaune au rouge et gonfler énormément. Elle deviendra une étoile géante rouge, comme la belle Antarès, l'œil du scorpion dans le zodiaque, bien visible l'été au sud, juste au-dessus de l'horizon. La chaleur reçue par notre planète augmentera fortement. L'eau va se vaporiser et le sol se désertifier. Plus tard encore, les pierres elles-mêmes se vaporiseront. Tous les atomes de notre planète retourneront dans l'espace et s'intégreront à de nouvelles nébulosités. Peut-être formeront-ils d'autres planètes ultérieurement habitées par d'autres petites filles qui poseront des questions à leur grand-père. Et le recyclage reprendra là-haut, comme ici aujourd'hui. Souvent, les gens me demandent « À quoi servent l'astronomie et les télescopes ?» Tu as ici une réponse. Grâce à eux, nous avons appris que les étoiles, pourtant si lointaines, ne nous sont nullement étrangères. Elles ont joué un rôle important dans notre existence. Sans elles, pas d'atomes, donc pas de cerveau pour formuler des questions. Cela valait la peine de faire des efforts pour comprendre ce qui se passe dans l'univers et comment nous en sommes venus à exister. En nous parlant de l'univers, la science nous parle de nous-mêmes. Elle cherche à connaître tous les événements qui se sont succédés dans le ciel et sur la terre et qui ont eu pour résultat notre propre existence. Elle nous raconte notre propre histoire. Chapitre 7. Ruches et galaxies.
J'ai encore beaucoup de questions à te poser.
Retournons nous installer sur les transats et reprenons nos conversations. Maintenant, la nuit est vraiment tombée et on voit une quantité d'étoiles dans le ciel.
Oui, partout. Il n'y a pas une zone du ciel où l'on n'en voit pas. Y en a-t-il autant dans tout l'univers?
Non. Il y a d'immenses espaces sans étoiles. On ne s'en aperçoit pas à l'œil nu, mais on le constate avec nos télescopes. Dans l'univers, les étoiles sont regroupées en grands amas qu'on appelle des galaxies. Chaque galaxie contient environ 100 milliards d'étoiles. Si tu vois beaucoup d'étoiles, c'est que nous sommes à l'intérieur d'une galaxie. Si nous sortions de la nôtre, tu en verrais bien peu. On peut comparer les étoiles dans une galaxie et les abeilles dans une ruche. Chaque abeille d'une ruche y naît, vit et meurt. Il y a de nombreuses ruches et chaque abeille appartient à l'une d'elles. Elle est en quelque sorte dans sa famille. De la même façon, chaque étoile appartient à une galaxie. Notre Soleil est une étoile de la Voie lactée.
Est-ce qu'on peut voir notre galaxie dans le ciel?
Regarde bien le ciel. on y voit une pâle bande blanche qui s'élève au-dessus de l'horizon au nord, passe sur nos têtes et replonge vers l'horizon au sud. C'est notre galaxie. On n'en voit qu'une partie. Le reste passe en dessous de la Terre et revient vers le nord. Parce que nous sommes à l'intérieur, nous ne pouvons pas en avoir une vue d'ensemble. C'est un peu comme quelqu'un qui, perché sur une branche d'arbre, ne peut voir l'arbre dans son ensemble, mais voit les branches étalées autour de lui.
Peut-on voir d'autres galaxies?
Les galaxies, même les plus proches de nous, ne sont pas visibles à l'œil nu. Sauf trois, que l'on peut tout juste distinguer pendant une nuit particulièrement obscure. Dans le ciel d'automne de l'hémisphère nord, on peut voir la galaxie d'Andromède près de la constellation de Cassiopée en forme de W. Il faut la regarder avec des jumelles. Rappelle-toi, en observant cette tache blanche de forme ovale, que sa lumière a quitté la galaxie il y a près de 3 millions d'années, quand les ancêtres des premiers hommes commençaient à marcher sur la Terre. Dans l'hémisphère sud, on peut voir deux autres galaxies, les nuages de Magellan. Ce sont les plus rapprochés. Les autres sont beaucoup plus loin, pour certaines des milliers de fois plus loin.
Combien est-ce qu'il y en a?
Avec nos puissants télescopes, on pourrait en dénombrer plus d'une centaine de milliards. L'univers se présente à nous comme un vaste archipel de galaxies dans un océan gigantesque qu'on appelle l'espace intergalactique.
Avec ces télescopes, serait-il possible de voir toutes les galaxies de l'univers?
Non. Même avec les télescopes les plus puissants, on ne pourrait pas voir tout l'univers. Nos observations sont limitées par un horizon au-delà duquel nous ne pouvons rien voir, un peu comme le regard quand on est au bord de la mer.
Que penses-tu qu'il y ait au-delà de cet horizon?
D'autres galaxies, sans doute.
Et combien?
On n'en sait rien.
Se pourrait-il qu'il y en ait un nombre infini?
Chapitre, oui, c'est possible. Un univers fascinant dans l'étude de l'univers, c'est qu'on peut s'attendre à
quelque
tout,
part que
même aux choses les plus inimaginables.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il devient plus grand? Et s'il s'étend, il s'étend dans quoi? Il faut que tu m'expliques.
Quand on veut discuter d'une question, il est toujours intéressant de remonter à son origine. D'où vient cette idée d'un univers en expansion? Vers 1920, de grands télescopes sont mis en opération en Californie. L'astronome américain Hubble entreprend de mesurer la distance et le mouvement d'un certain nombre de galaxies.
On pensait vraiment qu'elles pouvaient se déplacer?
On n'en savait rien. Tout était possible. Les résultats ont été si étonnants, si inattendus, qu'au début, Hubble lui-même doutait de leur valeur. Il pensait avoir commis une erreur quelque part. Ce sont ses propres élèves qui ont réussi à le rassurer. Il ignorait qu'il venait de faire une découverte qui allait influencer toute notre vision du monde.
Qu'a-t-il donc découvert de si extraordinaire?
Il a découvert que les galaxies ne sont pas immobiles dans l'espace. Elles se déplacent les unes par rapport aux autres en s'éloignant. Jusque-là, rien d'étonnant, mais c'est la suite qui va susciter beaucoup de réactions. Les galaxies ont un mouvement d'ensemble très particulier. Plus elles sont lointaines, plus elles s'éloignent vite.
Comment l'imaginer? Je sens que tu vas me parler de ton fameux pudding au raisin.
Oui, cette comparaison nous aide à nous représenter le phénomène. Dans une pâte contenant de la levure, on a mis des raisins secs. On met le tout au four et on observe ce qui se passe. La pâte, en gonflant, entraîne dans son mouvement les raisins qui s'éloignent lentement les uns des autres. Maintenant, imaginons que nous sommes installés sur un de ces raisins et regardons autour de nous. Nous verrons alors nos voisins raisins se déplacer d'une façon très particulière. Les plus proches bougent lentement, tandis que les lointains vont beaucoup plus vite. Mais tous s'éloignent dans un grand mouvement d'ensemble. On dira que le pudding est en expansion.
C'est ça, le rapport avec les galaxies?
Oui. Il en est de même pour l'ensemble des galaxies du ciel. L'univers est en expansion. Cela veut dire simplement qu'il y a un mouvement général d'éloignement des galaxies les unes par rapport aux autres, ce qui implique qu'elles étaient plus rapprochées dans le passé et qu'elles seront de plus en plus séparées dans l'avenir.
Est-ce que ça veut dire que l'univers devient de plus en plus grand?
Il faut toujours se méfier des comparaisons. Elles ont leurs limites. L'univers ressemble à un pudding quant à ses mouvements, mais il en diffère par la forme. Le pudding a un centre et un bord. Il s'étend dans l'espace vide du four. Notre univers n'a ni centre ni bord. Au meilleur de notre connaissance actuelle, il n'y a pas d'espace vide autour de lui. L'univers, ce sont des galaxies partout, et elles s'éloignent toutes les unes des autres.
Je n'arrive pas à m'imaginer ça.
Il ne faut pas t'en étonner. Quand nous abordons des dimensions aussi éloignées de nos perceptions ordinaires, notre imagination rencontre des difficultés. L'évolution biologique nous a habitués à des dimensions beaucoup plus modestes. Ici, nous perdons nos repères. C'est le prix à payer pour essayer d'explorer l'univers. Mais les astronomes qui travaillent sur ces questions finissent par adapter leur imagination à ces immenses espaces. Tout ce qu'il te faut retenir, c'est que partout dans l'univers, il y a des galaxies, et que les distances qui les séparent augmentent continuellement. C'est là le sens de l'expression « l'univers est en expansion », et c'est juste ça. Attardons-nous sur cette découverte. Elle nous donne une information fondamentale sur notre monde. Il change avec le temps. Il était différent dans le passé et il sera différent dans l'avenir.
Et qu'est-ce qu'on pensait avant cette découverte?
On acceptait généralement l'image de l'univers qu'Aristote avait présentée 2000 ans auparavant. Selon ce philosophe grec, l'univers existait depuis toujours et devrait exister pour toujours, sans changement. Pour lui, l'univers est statique, éternellement figé en lui-même. Bien sûr, il y a des choses qui changent, admettait Aristote. Le bois pourrit, le métal rouille, les montagnes s'érodent et les vallées se remplissent. Mais, ajouta-t-il, ce ne sont que des événements à notre petite échelle. De l'anecdotique, en quelque sorte. À grande échelle, celle du ciel et des étoiles, rien ne change jamais, affirmait-il.
Comment en était-il arrivé à cette conclusion?
Aristote connaissait les travaux des astronomes babyloniens d'avant notre époque. Ceux-ci consignaient méticuleusement tout ce qui se passait dans le ciel depuis longtemps. Les constellations revenaient régulièrement à leur saison. Rien ne semblait contredire l'idée d'un univers immuable. À partir de ces observations, Aristote se sentait autorisé à admettre l'éternité du cosmos. Pas de début, pas de fin.
Mais si je me souviens bien, à cette époque, les astronomes n'avaient pas de télescope.
Oui, c'est cela qui fait toute la différence. Les modestes artisans qui ont fabriqué les premiers instruments d'optique en Hollande au XVIe siècle n'auraient jamais pu imaginer l'impact que leurs instruments auraient sur toute la pensée humaine. Tout comme les observations de Galilée avec sa lunette sur les satellites de Jupiter en 1610 qui ont montré que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Les mesures de Hubble ont suffi à montrer que l'univers est en profond changement. Il était plus dense dans le passé et il sera moins dans l'avenir.
Est-ce que ça veut dire que dans le lointain passé, il était beaucoup plus petit. Petit comme un petit pois?
Non, pas nécessairement. Il pouvait quand même être grand, peut-être même infini. Ce n'est pas facile à imaginer. Nous y reviendrons plus tard. Chapitre 9. Une histoire de l'univers.
Tu m'as expliqué ce que veut dire l'univers en expansion. Tu as insisté sur le fait qu'il y a constamment du changement dans l'univers. En quoi est-ce que cela me concerne? En quoi le mouvement d'éloignement des galaxies, que je ne peux même pas voir à l'œil nu, m'intéresse-t-il personnellement?
Nous avons encore beaucoup de trajets à parcourir avant de pouvoir te répondre correctement. Un univers où rien n'aurait jamais changé depuis l'éternité et qui durerait toujours, comme l'affirmait Aristote, serait un univers sans histoire. La découverte du mouvement d'ensemble des galaxies, leur éloignement progressif au cours du temps, nous permet d'affirmer que l'univers a une histoire. Nous allons donc pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de notre enquête. Nous allons essayer de reconstituer cette histoire. Une histoire, c'est quoi? C'est la narration d'une suite d'événements qui ont eu lieu dans le passé. Cela suppose qu'il y ait des faits qui soient arrivés à certains moments, comme la Révolution française pour l'histoire de France ou la bataille des plaines d'Abraham pour le Québec. Ces épisodes influencent ce qui va se produire par la suite. Sans la connaissance de ce passé, on ne peut pas comprendre le présent.
Mais alors, les astrophysiciens deviennent un peu comme des historiens?
Pour bien illustrer la situation, nous allons plutôt comparer la tâche des astrophysiciens à celle des préhistoriens qui essaient de découvrir le passé de l'humanité. Ils cherchent la façon dont vivaient nos ancêtres. Où habitaient-ils? Comment arrivaient-ils à se nourrir, à se réchauffer? Pour répondre à ces questions, les chercheurs font ce qu'on appelle des fouilles. Ils vont sur les lieux où se trouvent des traces d'habitation anciennes. Ils recueillent des cendres de brasier, des outils primitifs en silex taillé, des bois de renne sculptés. Tout cela permet de reconstituer, avec un peu d'imagination, le mode de vie de nos lointains aïeux d'une façon assez convaincante.
Oui, je me souviens. L'été dernier, tu nous as amené visiter la grotte de Totavel, près de Perpignan. Dans le musée, nous avons vu les reconstitutions de la vie de nos ancêtres il y a plusieurs centaines de milliers d'années.
On connaît beaucoup de choses sur le mode de vie des humains depuis l'époque de Totavel. Mais plus on recule dans le temps, plus nos informations sont fragmentaires. On découvre sans cesse de nouveaux sites habités, quelques crânes plus ou moins bien conservés, et pourtant, il y a encore beaucoup de questions sans réponse. L'important, quand on veut décrire un chapitre du passé, c'est d'avoir des fossiles provenant de la période correspondante. Sinon, on ne peut rien dire de crédible. J'insiste sur ce point. Il va nous être utile pour notre histoire du cosmos. Cela est vrai aussi bien pour la préhistoire humaine que pour l'histoire du cosmos.
Ça pourrait être quoi ces fossiles pour l'astronomie? Il n'y a pas de bois de renne dans le ciel.
Bien sûr, il ne s'agit plus de pointes de flèches ou de grottes peintes. Ce seront par contre des rayonnements émis à certaines périodes de la vie de l'univers ou encore des variétés d'atomes engendrées dans certains événements cosmiques. Tous ont laissé des traces qu'on peut identifier encore aujourd'hui.
Je suppose que, comme les fossiles des préhistoriens, ces vestiges du passé vont jouer un rôle de preuve à l'appui pour la crédibilité de l'histoire.
Tu as bien compris. Mais avant de poursuivre cette narration, il me faut parler des travaux d'un certain Albert Einstein.
C'est celui qui tire la langue sur une photo?
Oui. C'est lui. Il a joué un rôle important dans l'ensemble de la physique. Pour l'astronomie, il a obtenu un résultat particulièrement significatif. On peut montrer, par sa théorie de la relativité, que si l'univers est en expansion, alors il doit aussi être en train de se refroidir.
Comme un gigantesque frigo?
Effectivement, c'est ce qui se passe dans le moteur d'un frigo. Quand on comprime un gaz, il se réchauffe. Quand on le détend, il se refroidit. On pourrait dire que l'univers se comporte comme un immense gaz dont les galaxies seraient des particules. Les observations de Hubble montrent que ce gaz est en expansion et donc qu'il se refroidit. Voilà un deuxième élément de notre histoire. Le premier, notre univers est en expansion. Le second, il est en refroidissement.
Partout, c'est tout l'univers qui se refroidit?
Oui. Partout à la fois et à l'unisson sur toute l'étendue de l'espace cosmique. Et maintenant, je te présente un autre personnage important pour notre histoire, le chanoine belge Georges Lemaître. Vers 1930, il a eu l'idée de réunir les observations de Hubble et les théories d'Einstein. Il en a tiré un scénario du passé de l'univers, à partir de ce qu'il a appelé un atome primitif. Extrêmement chaud et dense, l'univers se refroidit et se dilue progressivement. C'est la première version de ce qui deviendra plus tard la théorie du Big Bang. À cette époque, ce scénario n'a pas eu beaucoup de succès dans le monde scientifique. Peu de chercheurs étaient prêts à l'accepter. Quand j'étais étudiant aux États-Unis, on en parlait guère au département de physique. Il gênait.
Pourquoi ?
Cette image d'une explosion initiale semblait bien peu adéquate et ne faisait pas très sérieux. Beaucoup de scientifiques étaient persuadés que l'univers n'avait pas d'histoire. Tout a changé grâce à un astrophysicien russe, Georges Gamov, que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur. Une sorte de géant, très drôle, qui aimait raconter des blagues pendant les cours. Lui n'avait pas peur du scénario de Lemaître. L'idée d'une histoire du cosmos ne le gênait pas. Il ajoutait, fort pertinemment, « Mais encore, faudrait-il avoir des moyens de la tester scientifiquement, d'avoir des preuves ?»
Toujours les fameux fossiles à trouver.
Oui, c'est bien ça. Mais où les chercher ? Il a eu l'idée géniale d'utiliser pour cela une propriété bien connue de la matière. Plus une substance est chaude, plus elle émet de la lumière. Dans l'atelier du forgeron, le fer fondu brille dans l'obscurité. Il est d'abord rouge. Si on augmente la température, il passe au jaune, puis au bleu. Il remonte les teintes de l'arc-en-ciel et devient de plus en plus brillant.
Est-ce vrai pour n'importe quelle substance?
Oui, pour toutes, sans exception. Même la confiture aux fraises, si on la chauffe suffisamment. À l'inverse, un corps qui se refroidit change aussi de couleur et devient de moins en moins lumineux. Il s'obscurcit. Supposons, disait Gamov, que ce scénario du Big Bang ait vraiment eu lieu comme le décrit Lemaître. Prenons-le au sérieux pour le tester. Cela implique que dans le passé, l'univers était plus brillant. Alors, plus on recule dans le temps, plus la matière du cosmos doit être chaude et lumineuse. Si on remonte suffisamment loin, on doit arriver à un moment où la quantité de lumière est prodigieuse. Un flash super éblouissant. Tout l'univers est lumière.
Mais ce flash lumineux, qu'est-ce qu'il est devenu?
C'est la question que se posait Gamov vers 1948. Cette lumière a-t-elle complètement disparu du cosmos pendant le refroidissement? Ou bien en reste-t-il une trace que nous pourrions observer aujourd'hui, une sorte de fossile de ces moments glorieux. Cela nous confirmerait que ce scénario décrit correctement les premiers temps du cosmos.
Donc, si je te suis bien, si on arrivait à détecter ce rayonnement, ce serait une confirmation du scénario du Big Bang. Est-ce bien comme ça que les choses se sont passées?
Gamov a fait quelques calculs. Il est arrivé à la conclusion qu'un tel vestige devait exister encore aujourd'hui sous la forme d'un rayonnement devenu invisible à nos yeux, sous forme d'ondes radio détectables avec un radiotélescope. On l'a découvert en 1965, près de 20 ans après la prédiction de Gamov, et tout à fait par hasard. Ce fut un grand moment pour la science et, en fait, pour toute la pensée humaine. On détenait donc une confirmation du scénario du Big Bang, c'est-à-dire le fait que l'univers a une histoire et que cette histoire est celle d'un refroidissement à partir de très hautes températures, densité et luminosité. Il y a une leçon à tirer de ce récit, c'est qu'une idée impopulaire peut être juste.
Je suppose, à l'inverse, qu'une idée populaire peut être fausse.
Exactement. L'univers est ce qu'il est. Il n'a rien à faire de nos opinions. La communauté scientifique a réagi correctement. Maintenant, les astrophysiciens ont adopté, dans leur très grande majorité, la théorie du Big Bang. Ils la prennent au sérieux et l'utilisent pour remonter au premier temps du cosmos.
Ils considèrent que c'est la vérité.
Ici, il faut faire attention. La science ne dit pas « c'est ainsi », elle dit « c'est vraisemblablement ainsi ». Ou mieux, « il y a probablement du vrai là-dedans ». Pourtant, il y a encore bien des points obscurs, des problèmes non résolus, des difficultés à élucider. Le scénario du Big Bang reste, pour l'instant, dans ses grandes lignes, la meilleure narration du passé du cosmos.
Existe-t-il d'autres fossiles de l'univers primitif?
Il y en a encore plusieurs. En voici un. Des cendres du Big Bang sont restées parmi nous. Ce sont les atomes d'hydrogène et d'hélium.
Qu'est-ce que ces atomes nous racontent?
Ils nous ramènent à une période où l'univers était âgé d'une minute. Sa température était alors d'un milliard de degrés. Comme dans le Soleil aujourd'hui, les réactions nucléaires ont eu lieu dans tout l'espace cosmique. Elles ont transformé une partie de l'hydrogène initial en hélium. La théorie du Big Bang prévoit que seulement 10% de l'hydrogène s'est transformé en hélium et 90% est resté intact. Ces atomes d'hydrogène et d'hélium, on les retrouve aujourd'hui dans les étoiles et leurs nébuleuses. Leurs quantités respectives sont bien celles que prévoit la théorie. Ces atomes reliquats du Big Bang sont des fossiles du passé, tout comme le rayonnement fossile. Ce sont les vestiges du grand brasier primordial. Cet accord entre les observations et les prévisions de la théorie du Big Bang est une bonne raison de la prendre au sérieux. Même si, je le répète, la reconstitution de l'histoire pose toujours des problèmes sérieux. Il y a encore place pour beaucoup d'observations et de théorie. La prudence est toujours de mise. Ce doit être une constante chez tout scientifique. Chapitre 10. Quel est l'âge de l'univers?
Tu m'as expliqué comment on évalue l'âge du Soleil. Est-ce qu'on peut également connaître l'âge de l'univers?
Pour cela, il y a plusieurs façons de procéder. Une première méthode consiste à utiliser les mesures effectuées par Hubble qui nous ont montré que l'univers est en expansion. Avec nos ordinateurs, nous pouvons construire une simulation numérique de l'univers, une sorte de scénario avec lequel on suit sa transformation au cours de l'expansion. Puis, on passe le film à l'envers. Les galaxies se rapprochent progressivement. On continue jusqu'au moment où elles se juxtaposent. On obtient alors au compteur 13,7 milliards d'années. C'est ce qu'on appelle l'âge de l'univers. Une deuxième méthode vient de l'idée que, selon toute logique, l'univers doit être plus vieux que ses plus vieux habitants. Sinon, il y a quelque chose qui cloche et il faut revoir notre copie. Prenons d'abord les étoiles. Dans beaucoup de cas, nous pouvons en estimer l'âge. Par exemple, les trois rois mages dans la constellation d'Orion ont environ 10 millions d'années. Les belles étoiles bleues des Pléiades, visibles l'hiver près de la Voie lactée, ont environ 80 millions d'années. Notre Soleil a 4,5 milliards d'années. Un amas globulaire, un gros amas d'étoiles, situé dans la constellation d'Hercule, à 13 milliards d'années. On a ainsi daté un grand nombre d'étoiles. Or, et c'est cela qui importe, on n'a jamais trouvé une seule étoile dont l'âge dépasse 14 milliards d'années. Troisième méthode, on utilise les atomes radioactifs comme l'uranium et le thorium. Il y en a un grand nombre avec des demi-vies différentes. Ils nous ont servi à mesurer l'âge du Soleil. On peut aussi obtenir l'âge de ces atomes eux-mêmes, c'est-à-dire le temps qui s'est écoulé depuis leur formation dans les étoiles. Là, les mesures sont moins précises, mais elles concordent bien avec les estimations précédentes. On n'a jamais trouvé d'atome nettement plus vieux que cet âge de 14 milliards d'années. Voilà donc trois mesures obtenues par des méthodes différentes. Pour les galaxies et les étoiles, les résultats proviennent des télescopes dans les observatoires astronomiques. Pour les atomes, on utilise des compteurs de radioactivité dans les laboratoires de physique nucléaire. On obtient des estimations voisines. Cette cohérence est significative. Si des étoiles ou des atomes plus vieux existaient dans l'univers, on pourrait les détecter. Jusqu'ici, on n'en a pas trouvé. Cela crédibilise le scénario du Big Bang.
Ça me pose